Alors, je suis en total conflit d'intérêts. Celui que vous allez entendre, il a été mon collègue lorsque j'étais député, mais il est devenu, au fil du temps, un ami. Sylvain Roy, député de Bonaventure. Salut.
Salut, Bernard.
Alors, je t'invite dans l'émission parce que je veux que tu racontes un peu ce qui t'est arrivé ces derniers temps avec ce cancer que tu as combattu, parce que je te connais, là, puis je sais qu'on va apprendre de ça, puis il va y avoir quelque chose d'inspirant là-dedans. Alors, ton cancer, d'abord, c'était quoi?
Ben, écoute, c'est un cancer de la gorge. Ça a été détecté, au mois d'avril. C'était une bosse dans le cou que je croyais pas importante, donc qui venait puis qui s'en allait. Bref, c'était un peu bizarre l'affaire. Fait que j'ai été voir mon médecin, je lui ai demandé, bon, qu'est-ce que ça peut être? Puis il dit, garde, on va passer des scans, puis on va voir. Puis il me dit à l'époque, bon, ça devrait pas être grave. Et une semaine après, il m'a appelé en catastrophe, il voulait me voir. Et là, il m'a convoqué à son bureau pour me dire que j'avais probablement un cancer qui me donnait 70% de chances de survie.
Okay.
Et là, j'étais vraiment en état de choc. Je peux vous dire que ça fait drôle.
70%, tu te dis, ouais, j'ai 2 chances sur 3 de passer au travail.
Ben, c'est pas évident, là. Hein? Et là, on m'a envoyé passer différents tests pour bien savoir ce que j'avais. Donc, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que j'ai eu plusieurs biopsies. Et ça a été à peu près au début août, avant que je sache clairement ce que j'avais. Donc, avril, mai, juin, juillet, août, on me dit, bon, OK, là, on sait, tu as 95% de chances de guérison, mais tu vas avoir la totale, là, la chimio et la radio. Et tu vas passer un mauvais quart d'heure. Mais le problème dans ce temps-là, c'est que tu dis ça comment à ta famille, tu fais quoi? Et tant que tu n'as pas de pronostic clair, ben tu te tais. Ça fait que tu es obligé de vivre avec ça. Donc, d'avril à août, là, on a trouvé ça un peu long, moi et ma conjointe, là, et par moments très difficile.
Est-ce que tu as des enfants? Tu as des enfants, hein?
Ouais, ben oui.
Et comment tu leur as annoncé ça, là?
Ben, regarde, à partir du moment, à 24 heures de me faire enlever les amygdales, là, parce qu'ils voulaient aller voir si j'avais de quoi là, ben, j'ai été obligé de le dire, hein? Parce que là, ils se seraient aperçus que je n'étais pas capable de parler. Ça fait que je leur ai annoncé ça. Ça a été dur. Ça, c'est le moment le plus tough, là, en tout cas, pour moi, c'est ça qui a été très difficile. C'est d'annoncer à mes fils que je partais en traitement pour le cancer. Et là, tout de suite, dans leur esprit, ils vont perdre leur père. Puis, et moi, à l'époque, quand je savais que je l'avais, mon plus jeune allait avoir un bébé. Ben, pas lui, sa conjointe allait avoir un enfant. Mon frère se mariait dans le cours chez nous. Mes employés prenaient leurs vacances. Donc, j'essaie d'éviter ça, là, à tout le monde. Jusqu'au moment où, après les vacances d'été, tout ça, ben, puis avant l'opération des amygdales, que je l'annonce. Donc, c'est très difficile, mais je l'ai fait avec le plus de tact possible. Et mes garçons sont courageux, donc ils ont compris que j'avais un combat à mener.
Et comment ça s'est passé, ton combat, là?
Bon, écoute, c'est un peu particulier parce que là, j'avais une décision à prendre. Est-ce que je me représente en campagne électorale ou pas? Et le contexte faisait en sorte que le traitement était dans le cas, j'étais en pleine campagne électorale et j'ai décidé de me faire soigner à Québec. Donc, j'ai fait une campagne atypique en ce sens que j'ai pas mené de campagne électorale. Donc, je me suis fait soigner à Québec. On parle de 33 traitements de radiothérapie et 3 traitements de chimiothérapie assez intenses. On m'avait prédit d'être hospitalisé, intubé par rapport au traitement de chimio. Puis, en fin de compte, j'ai eu le OK. Donc, j'étais très heureux là, de voir que les effets secondaires étaient amoindri.
Mais tu te bats contre le cancer, puis en même temps, tu te bats, tu as une élection à gagner. Mm. Tu te demandes comment tes citoyens vont réagir. Ils vont-tu m'appuyer là-dedans ou bien ils vont se dire, celui-là, là, il est décompté, excuse l'expression, mais il doit y avoir toutes sortes de choses qui te passent par la tête?
Moi, j'ai décidé que... Bon, on m'a dit que j'avais 95% de chance et que... Parce que le traitement arrivait en même temps que la campagne. Donc, je me suis dit, bon... Le contexte de traitement arrive pendant la campagne. Est-ce que je vais me retirer en ayant beaucoup de très bonnes chances de m'en guérir, Est-ce que je vais me retirer ou je vais laisser à la démocratie le soin de choisir? Donc, j'ai averti la population. J'ai été très transparent. J'ai jamais conté d'histoire à personne. J'ai dit, écoutez, je ne pourrai pas faire campagne, mais je vais intervenir dans les médias. J'ai fait un débat par Skype. J'ai été en Gaspésie une fois. Et j'ai dit à la population, vous avez le choix. Mais je ne me retirerai pas parce que J'avais l'impression que j'aurais été encore plus malade si je n'avais pas pu répliquer aux turpitudes que j'aurais entendues pendant la campagne. Parce qu'on a quand même la possibilité de répliquer à des adversaires, des fois, qui poussent le bouchon un peu trop loin. Ça fait que. Et en même temps, j'ai une petite théorie là-dessus. On a quand même de l'adrénaline en campagne électorale. Puis l'adrénaline, c'est pas négatif. Et moi, j'ai expliqué à mon médecin que les effets secondaires ont été minimisés par l'effet de l'adrénaline de la campagne. C'est une théorie à moi, là. Mais il y a une énergie qui se dégage de tout ça. Et j'ai gagné de manière... j'ai triplé ma majorité par rapport à 2014. Donc, les gens m'ont donné un signal clair qu'ils voulaient me revoir dans la circonscription comme député.
Puis hier, t'as tweeté, hier, t'as tweeté la bonne nouvelle.
Et là, on a beau dire que t'as 95% de chances de t'en sortir, mais il en demeure pas moins qu'il en reste un 5% où tu dis, Simonac, ça se peut bien que j'y passe. Hein. Et tous les symptômes physiologiques qu'on peut avoir, là, j'ai mal dans le dos un petit peu, mal à un genou, etc. Tu te dis, bon, ça y est, c'est généralisé, je suis fait. Fait que avant-hier, bon, ça a été un scan, un TEP scan, 3 heures dans un tube à se faire couper en saucisse là, par les rayons X ou je sais pas quoi. Là. Et par la suite, bon, c'était l'attente interminable du résultat le lendemain. Donc, à midi, pile, le médecin est rentré dans la salle en me disant il n'y a plus de traces, vous êtes guéri, M. Roy. Et là, je peux vous dire que ça fait un effet extraordinaire. Là. J'ai dormi hier là, comme un bébé. Ça fait 10 mois que je me réveille la nuit en me disant, bon, qu'est-ce qui m'attend? Donc, c'est une insécurité que l'on vit lorsqu'on a des traitements de cette nature-là. Et je sais que ce sont des milliers de personnes au Québec qui vivent ça actuellement. Et je leur dis, gardez espoir. Les choses s'améliorent souvent. C'est pas tout le monde, vraiment, la majorité des gens s'en sortent. Mais il faut garder espoir.
Ah! C'est ça que je voulais entendre, mon cher Sylvain. C'est ça que je voulais entendre.
Si tu me permettrais, Bernard, là, j'ai quand même, en tant que parlementaire, je suis un député, et je ne pouvais pas laisser ça aller comme ça. Quand on a des réflexions sur la mort, sur toutes sortes de choses, sur la prévention surtout.
En terminant, Sylvain.
Oui, en terminant, on a fait une pétition qui est en ligne sur le site de l'Assemblée nationale où on demande au gouvernement de faire du Québec la nation la plus avant-gardiste en termes de prévention du cancer.
Merci. Merci, Sylvain.